Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Au moins 52 morts recensés à 7h et après 6 explosions au Sri Lanka. Selon un nouveau bilan de la police à l'instant, il y aurait des centaines de blessés dans une série d'attaques à la bombe dans 3 églises où était célébrée la messe de Pâques ce matin et dans 3 hôtels de luxe aussi. Une église de la capitale Colombo et 2 autres églises, l'une juste au nord de Colombo, l'autre dans l'est de l'île. Plus de précisions dans le journal de 9h sur France Culture, nous irons sur place. Nous partons maintenant à Kaboul, au lendemain d'une attaque qui a fait au moins 7 morts, 4 civils et 3 membres des forces de sécurité. Au moins 4 hommes armés, vêtus d'uniformes de la police, se sont attaqués à un complexe où se trouve le ministère des communications et de l'information dans le centre de la capitale afghane. L'attaque a duré plus de 6 heures après qu'un premier kamikaze s'est fait exploser à l'entrée. Les talibans nient toute implication, ni les talibans ni le groupe État islamique n'a revendiqué cet acte pour l'instant. Cela faisait plusieurs semaines qu'un calme relatif dans la capitale afghane. Alors que des pourparlers de paix sont en cours entre les talibans et les américains, sur le terrain, la guerre continue. Les précisions de Sona Ghezali, correspondante de RFI pour France Culture à Kaboul.
Kunduz, Ror, Faryab, Saripoul, au total 15 provinces seraient le théâtre d'attaques perpétrées par les talibans sur les représentants des autorités afghanes ainsi que les forces de sécurité nationale ou étrangères. Sur ces zones, les combats se sont intensifiés quelques jours avant l'annonce officielle de l'offensive de printemps des talibans le 12 avril dernier. Face aux critiques de la communauté internationale, les insurgés ont affirmé être toujours autant investis dans les pourparlers engagés avec les Américains depuis plusieurs mois. Mais les combats continueront tant que des opérations militaires sont menées contre nous, ont-ils dit. Il y a 2 jours, les représentants talibans devaient rencontrer une délégation afghane à Doha, au Qatar, dans le cadre des discussions de paix. Ils ont annulé la rencontre au motif que des membres du gouvernement y participaient et que la liste contenant 250 personnes était trop longue. Il ne s'agit pas d'une cérémonie de mariage, ont-ils moqué. Il faut souligner les difficultés de ce dialogue inter-afghan qui n'a toujours pas eu lieu. Un journaliste afghan écrivait récemment « Plus on approche de la date du dialogue inter-afghan et plus les choses se compliquent et deviennent ardues. Rappelons qu'il ne s'agit même pas encore de négociations mais d'une simple rencontre pour briser la glace. » Fin de citation. À ces tensions avec les représentants talibans s'ajoute celle au sein du gouvernement et plus largement de la classe politique qui est divisée sur cette paix ou du moins sur les moyens d'y arriver. Preuve en est de la décision de plusieurs candidats à la présidentielle de ne pas participer à la Loya Jirga du 29 avril, la grande assemblée traditionnelle consacrée à la paix. Le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, a annoncé qu'il n'y participerait pas.
En Ukraine, les bureaux de vote ont ouvert depuis une heure maintenant pour l'élection présidentielle et le choix entre le président sortant Porochenko et le comédien Zelensky pour ce second tour. L'une des clés du scrutin aujourd'hui concerne le vote des indécis et avec lui celui des minorités. L'Ukraine en abrite une 20aine sur son territoire. Les russophones sont les plus nombreux, ils représentent près de 20% de la population, essentiellement dans l'est et le sud du pays comme à Odessa, au nord de la mer Noire, Claude Bruyot.
Le 31 mars dernier, au premier tour de la présidentielle, Odessa et son agglomération ont voté à plus de 40% en faveur de Volodymyr Zelensky. Et rien n'indique que les intentions soient différentes 3 semaines plus tard, c'est même plutôt le contraire à en croire Vladimir, 35 ans, chauffeur de taxi, qui se présente comme ukrainien mais défend aussi ses origines russes.
Je vais voter pour Zelensky. Porochenko n'a fait que parler pendant 5 ans. Il n'a rien fait. L'indépendance de l'Église orthodoxe d'Ukraine, ça n'a fait que diviser les gens et semer les mauvaises herbes. Il a rompu les liens avec la Biélorussie et la Russie. Et il continue à éloigner les gens les uns des autres, alors que nous étions frères.
Les russophones d'Odessa, très impliqués dans tous les secteurs d'activité, représentent 1/3 de la population de la ville, la 3e d'Ukraine, avec 1 million d'habitants. Beaucoup plus discrète et bien moins nombreuse, avec 30 000 personnes, la communauté juive locale, martyrisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, reste très attachée à l'histoire de la cité portuaire et suit de très près l'élection présidentielle. Car même s'il ne s'affiche pas, Volodymyr Zelensky a des attaches dans la communauté juive. Et s'il est élu ce dimanche soir, pour Bolislav, le porte-parole de la synagogue Tikva à Odessa, l'intégration des siens peut s'en trouver facilitée.
Pour notre communauté, si on envisage la question du point de vue de la citoyenneté, cette élection est importante pour
soutenu les juifs ukrainiens, ça peut changer bien des choses. Ça aura beaucoup d'intérêt pour nous. Mais si on se place du côté religieux, ça ne changera rien, car le président n'a pas d'influence sur les communautés, à la différence du Parlement. Et puis nos conditions de vie sur le plan économique ne vont pas changer au quotidien.
Au-delà des minorités, en référence au premier tour il y a 3 semaines, la présidentielle ukrainienne a démontré également que seules les régions de l'Ouest, les plus proches de l'Union européenne, accordaient davantage de confiance à Petro Poroshenko que dans le reste du pays.
Claude Bruyot pour France Culture. En France, après plus de 5 mois de mobilisation, 28 000 gilets jaunes auraient manifesté hier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 9 000 à Paris pour ce 23e samedi consécutif. À Toulouse, ils étaient encore près de 4 000 dans les rues. Sur place, le reportage de Stéphane Garcia.
Comme toujours à Toulouse, c'est en milieu d'après-midi que des incidents ont commencé à se produire. Jets de projectiles, feu sur les grands boulevards, en riposte. Les 500 policiers et gendarmes lancent des grenades, des encerclements lacrymogènes, de quoi dégoûter certains manifestants.
Ça nous saoule parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on sort, qu'on marche, qu'on se fait gazer, qu'on se fait arrêter, qu'on se fait insulter.
C'est pas normal en pleine ville d'avoir ça. On se croirait dans un pays en guerre. On n'est pas dangereux, on n'est pas méchant.
Des scènes loin du cortège de plusieurs milliers de manifestants qui a fait plusieurs boucles autour du centre-ville dans le calme tout au long de l'après-midi.
Joyeux, convivial, solidaire. Moi, je trouve qu'il y a une communion qui est saine.
J'essaie de jongler pour faire un peu de joie et de bonne humeur, pour pas être juste un manifestant qui marche dans les rues. Des gens qui prennent des pancartes, on essaie de faire autre chose.
Alors que le président doit annoncer des mesures après le grand débat, ces gilets jaunes n'y croient pas vraiment.
Il parle tout seul, il s'écoute lui-même, c'est tout ce qu'il fait.
C'est même de pire en pire, puisque même l'EDF il va augmenter, il y a le gasoil on avait réussi à faire baisser, il augmente à nouveau. C'est de plus en plus dur pour tout le monde, je pense.
D'autant que ces fins de manifestation agitées ne sont pas de nature à calmer les ardeurs des manifestants.
Les gilets jaunes, c'est comme le dentifrice, ça ne veut plus rentrer dans le tube quand on l'a fait sortir. C'est parce qu'il y a des gens qui ont le courage de se lever, qu'il y a des choses que peut-être qui auront une petite chance infime d'avancer.
Reportage signé Stéphane Garcia. La météo, de la pluie au sud sur la région Occitanie dès ce matin, du soleil largement dominant sur le reste du pays toute la journée. Les températures sont comprises entre 13 et 21 degrés.